Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, aussi l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 28 octobre. Les pompiers toujours en colère. Ils regrettent de ne pas avoir pu rencontrer le Premier ministre vendredi de passage à Lyon. Une nouvelle manifestation pour la Palestine, c'était samedi, place de la République. Le Lyonnais André Olivier, cofondateur du groupe d'extrême gauche Action Directe, est sorti de prison il y a 2 semaines. Dans l'actualité également, nous parlerons de l'autre cercle et nous parlerons de la lutte pour favoriser l'inclusion, notamment en entreprise. Et puis les principaux résultats de sport du week-end à la fin de cette édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le premier syndicat des pompiers du Rhône Sud, SDMIS, a estimé que l'exécutif était sans considération aucune à l'égard des pompiers du Rhône. Il regrette de ne pas avoir pu échanger vendredi avec le Premier ministre Michel Barnier en déplacement dans le département pour les inondations. Et ce, près d'un mois après le début du mouvement social, les syndicats de pompiers, les syndicats du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours en particulier, ont lancé un mouvement social au début du mois pour réclamer plus de pouvoir d'achat et également des embauches. L'intersyndicale indique que la situation est suivie de très près par le ministère de l'Intérieur car elle pourrait se généraliser à beaucoup d'autres services de pompiers. Aucune solution immédiate n'est pour autant envisagée pour les problématiques de financement soulevées par les syndicats. Des photos de dizaines de victimes vivant dans la bande de Gaza, femmes, enfants et hommes posés à même le sol pour alerter sur les conséquences de la riposte israélienne après le massacre du Hamas le 7 octobre 2023. 200 personnes ont manifesté colère et désarroi samedi à Place de la République avec des slogans comme « Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine ». Le Lyonnais André Olivier, cofondateur du groupe d'extrême gauche Action Directe, est sorti de prison après plus de 38 ans passés derrière les barreaux. Sa sortie discrète a eu lieu il y a 15 jours. L'homme âgé de 81 ans a été libéré le 14 octobre sous bracelet électronique et sous plusieurs contraintes dont l'interdiction de publication et déclaration publique. C'est Le Monde qui a révélé cette information. André Olivier, 81 ans, était détenu à la maison centrale de Saint-Maur dans l'Indre. Il avait fait une brève carrière de professeur de français dans un lycée lyonnais. Il avait été interpellé en 86 à Lyon et condamné 3 ans plus tard à la réclusion criminelle à perpétuité pour une série de braquages de banques et attentats commis à partir de 1980 à Paris, Lyon et Saint-Étienne. Il avait été condamné une seconde fois en 95 à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises spéciale de Paris.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Je m'appelle Sophie Delannoy, j'ai 56 ans. Je suis papa de 3 grands-enfants et grand-mère de 2 petits-enfants. Voilà. Donc je suis une femme transgenre.
Sophie en parle aujourd'hui avec humour, mais être transgenre n'est pas facile à vivre, à la ville, comme en entreprise ou en famille. Témoignage.
Ça s'est passé parce que ça devait se passer, parce que ça faisait 51 ans que ça durait, et que c'était important de passer de la dysphorie de genre, c'est-à-dire cette espèce de situation assez difficile à vivre, qui peut devenir très dangereuse, à quelque chose qui m'a mené vers une euphorie de genre. Non, c'est un jeu de mots, mais c'était ça s'est passé. Ça s'est passé à Lyon déjà, et ça s'est bien passé parce que je suis devenu moi-même et que maintenant je me réveille le matin et je suis Sophie et c'est extraordinaire. Il faut avoir conscience que d'abord, en général, on est plutôt découragé parce que les personnes transgenres c'est 4% de la population dans le meilleur des cas. Donc, quand on fait une transition, on a affaire à des gens qui peuvent même pas imaginer que c'est ça. Donc on a plutôt des gens en face de nous qui essaient de nous décourager. C'est un tournant de vie très personnel. Les premiers pas se sont passé à Lyon avec des membres d'une association LGBT à l'époque qui n'existe plus, mais qui avait fait un travail extraordinaire, notamment pour les personnes transgenres. C'était d'aller dans la rue, de vivre une vie qui me faisait très peur, mais dont je me suis rendu compte qu'au bout du compte, elle était une vie normale. Pour ça, Lyon a été une ville très accueillante pour moi.
Alors, il y a la vie de tous les jours, la vie quotidienne, puis il y a la vie au travail, et ça, c'est le travail de l'autre cercle. Hein.
Ouais.
Comment on aborde cette situation quand on revient travailler?
Nous, ce qu'on explique à l'autre cercle, c'est que quand une personne transgenre fait sa transition, il faut forcément, c'est une révolution un peu pour tout le monde, surtout quand il s'agit de personnes transgenres qui sont là depuis très longtemps dans l'entreprise, comme c'était mon cas, il faut voir ça comme une opportunité. Il faut avoir la capacité, il faut se former pour être en mesure de détecter toutes les opportunités que ça peut révéler. Parce que quelqu'un qui fait sa transition va globalement... Bon, le moment de la transition est très dérangeant, très déstabilisant pour elle-même, mais ça lui permet à il ou à elle d'être beaucoup mieux. Et donc il y a pour l'employeur et pour l'entreprise et pour la personne un potentiel à exploiter et à exploiter intelligemment pour voir comment on peut aider cette personne, soit à se repositionner dans un nouveau travail, soit exploiter ses nouvelles potentialités et les développer. Et il faut passer de la peur de la transidentité à comprendre que c'est une opportunité pour les gens.
Le fait d'annoncer sa situation, ça permet aussi d'avoir un autre regard des autres, ou est-ce que quelque part ça stigmatise un peu?
Je ne saurais pas répondre à votre question. C'est comme ça, juste c'est comme ça, quoi. Et il y a des gens avec lesquels ça se passe bien, il y a des gens que vous voyez beaucoup moins, et puis c'est comme ça, mais c'est comme ça pour globalement toutes les phases de la vie, on change toutes et tous. Là, c'est un changement important, et c'est vrai qu'au début, on voit un peu les gens qui partent, et puis on a du mal à s'imaginer les gens qui vont entrer dans votre vie. Moi, globalement, j'ai eu la chance de... Bon, j'ai eu d'abord la tristesse de voir beaucoup de gens partir, et c'est très, très, très décevant. Et alors, c'est particulièrement problématique pour les jeunes dont je m'occupais quand on était au refuge, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont foutus dehors de chez eux, parce qu'ils font leur coming out. Et là, ils perdent leurs parents. Là. Moi, j'ai perdu les membres de ma famille. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, j'ai vu arriver dans ma vie des gens extraordinaires, des gens que j'avais perdu de vue depuis très longtemps, ou des gens que j'ai rencontrés. Et globalement, le bilan est très, très positif.
Des entreprises mettent en place des dispositifs pour favoriser l'inclusion. Et cela ne concerne pas seulement les personnes LGBT. Franck Cousserand est dirigeant de la société Jazz Pharmaceuticals. Il est aussi engagé dans l'association L'Autre Cercle. Au sein de son entreprise, il est même rôle modèle.
Un rôle modèle est avant tout une personne qui, par sa visibilité et par les actions qu'elle met en œuvre, va favoriser l'inclusion et le bien-être de tous les collaborateurs, de tous les employés dans le monde du travail, quel que soit leur orientation affective, sexuelle ou identité de genre. Au quotidien, les rôles modèles doivent, comme le nom l'indique, faire preuve d'état d'esprit inclusif, bienveillant et défendre les valeurs d'inclusion au quotidien. Ça peut passer par des actions de sensibilisation auprès de collaborateurs, ça peut passer par l'accompagnement à des signatures de chartes de l'autre cercle, mais ça peut aussi être juste un élément inspirant, juste par la visibilité pour faire en sorte que d'autres personnes puissent se dire « Ah, finalement, je peux être moi-même dans le monde du travail et ça ne me posera pas de problème. »
C'est pas être militant.
Non, c'est pas être militant, c'est vraiment faire preuve d'humanisme pour faire en sorte que la société soit la plus inclusive possible.
Quel type de message vous délivrez, alors, par exemple, dans votre entreprise ?
Dans mon entreprise, je porte des messages forts sur la diversité et l'inclusion à travers des actions très concrètes. On a, avec mon comité de direction, développé un plan d'action très spécifique avec, par exemple, l'organisation de tables rondes régulières avec les qui sont offertes aux salariés pour pouvoir justement, à des intervenants extérieurs, approfondir des sujets qui traitent toute la diversité, pas uniquement la diversité LGBT, mais qui peuvent traiter également la diversité de genre, la diversité d'origine, la diversité de parcours professionnel, diversité sociale. Donc c'est vraiment important, en tant que rôle modèle, de mettre en œuvre des actions concrètes qui favorisent la visibilité et l'inclusion de tous.
Vous avez quoi, un message général aux salariés ou ça s'adresse uniquement à ceux qui ont une thématique, enfin une problématique ?
La diversité doit être abordée dans son ensemble. Donc effectivement, l'autre cercle a pour axe les personnes LGBT dans le monde de l'entreprise. Pour autant, la diversité est multiple et vouloir uniquement aborder un sujet dans son entreprise est contre-productif puisque justement on pourrait à ce moment-là avoir l'impression qu'on fait du militantisme. Donc c'est important de traiter toutes les diversités.
Vous avez une mesure d'impact ?
Alors oui, il existe des outils qui mesurent l'impact. Il y a par exemple une enquête qui s'appelle Mixity qui permet en interviewant donc les collaborateurs de savoir justement comment ils vivent la diversité au sein de leur entreprise. Mais il y a également le baromètre de l'autre cercle qui est mené en partenariat avec l'IFOP et qui chaque année permet d'enquêter auprès de salariés de l'évolution de l'inclusion LGBT avec des questions très spécifiques. Pour vous donner un exemple, des questions du type « Avez-vous déjà entendu dans votre entreprise quelqu'un prononcer tel type de parole, type sale PD, sale Gwyn ?» Et donc c'est un exemple de question de ce baromètre qui permet justement de mesurer les avancées dans la société française au niveau des entreprises.
Les personnes LGBT sont encore nombreuses à se sentir discriminées. Ces discriminations sont encore plus marquées à l'encontre des personnes transgenres et non binaires. L'autre cercle intervient dans les entreprises. Son objectif, faire de la sensibilisation et de la pédagogie sur le lieu de travail. Nous avons rencontré Pierre Thivillier, membre actif de l'autre cercle. cercle.
Alors l'autre cercle, c'est une association qui existe depuis 27 ans en France, 23 ans en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui travaille pour une bonne inclusion des personnes LGBT en milieu professionnel. Que tout se passe bien dans les entreprises ou les institutions, quelle que soit l'orientation sexuelle de la personne ou son identité de genre.
Alors c'est quoi ? C'est les entreprises qui viennent vers vous ? C'est vous qui allez vers les entreprises ? Comment ça se passe ?
On ne va pas démarcher, donc c'est plutôt les entreprises qui viennent vers l'autre cercle, parce qu'ils ont entendu parler de la charte, parce qu'ils ont entendu parler des rôles modèles, parce qu'ils nous ont peut-être vus sur les réseaux, ou peut-être qu'ils ont un questionnement, un sujet qui les a interpellés à un moment donné dans leur société sur la question LGBT, que du coup ils nous sollicitent en tant qu'acteurs de référence sur le sujet, et dans ces cas-là, on se met à disposition, on va les écouter pour savoir quelle est leur demande et quels sont leurs besoins.
C'est-à-dire qu'ils sont confrontés, eux, à une problématique sous-jacente un peu dans l'entreprise ?
C'est possible qu'il y ait eu un événement peut-être particulier ou pas. Il peut aussi simplement avoir une volonté de mieux inclure les personnes LGBT. Souvent, les entreprises font déjà un bon travail pour favoriser la mixité, pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et dans la suite logique, ils essayent aussi de travailler sur une meilleure inclusion des personnes LGBT dans leur milieu professionnel. Donc souvent, on est démarché par des entreprises où il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Donc on va travailler avec eux pour que ça se passe peut-être un petit peu mieux, pour leur transmettre des outils. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, signer la charte d'engagement. Donc où là, ils s'engagent sur plusieurs choses en termes d'inclusion, en termes d'écoute, en termes de sanctions sur des comportements LGBT-phobes. Cette signature de charte, elle est accompagnée d'un suivi. Donc au bout de 3 ans, l'autre cercle va revoir les entreprises qui ont signé la charte pour voir ce qui a été mis en place, et la charte peut être resignée ou non suivant ce que l'entreprise a mis en place.
Parmi les outils, il y a aussi ces rôles modèles. Ça veut dire quoi, un rôle modèle dans une entreprise ?
Un rôle modèle, c'est une personne qui s'implique pour l'inclusion des personnes LGBT dans son entreprise. Donc ça peut être une personne LGBT, mais pas forcément, ça peut aussi être tout un chacun. Et là, dans ces cas-là, on va parler d'alliés. Ça, c'est vraiment très important, parce que comme tout sujet, il n'est pas nécessaire d'être une femme pour parler mixité ou féminisation, il n'est pas nécessaire d'être en situation de handicap pour parler d'inclusion des personnes en situation de handicap. Pareil pour les personnes LGBT, on a besoin d'alliés dans les entreprises pour pouvoir bien inclure les collaborateurs LGBT.
Donc ces alliés vont faire quoi alors ?
Alors ces alliés, ils peuvent mettre en place des actions, ils peuvent se rendre visibles, donc ça c'est assez important quand même, pour que si des salariés sont LGBT en entreprise, ils sont peut-être un petit peu timorés, ils savent pas vraiment la politique de l'entreprise, est-ce que je suis dans un endroit où je peux être libre, où je peux vraiment être entier. S'il y a des personnes visibles dans l'entreprise, c'est vraiment un point important, parce que ça va montrer aux salariés que il y a peut-être une écoute, il y a peut-être des personnes un petit peu plus ouvertes, donc ils vont peut-être se pencher d'abord vers ces gens-là avant de peut-être se rendre complètement visible auprès de l'ensemble de leurs collègues.
Il y a encore de la discrimination LGBT dans les entreprises, ça se traduit sous quelle forme ? C'est volontaire, c'est involontaire ?
Alors oui, il y a encore de la discrimination LGBT. Dans le dernier baromètre qui est sorti là, avec l'IFOP d'avril 2024, c'est à peu près 30% de personnes LGBT qui ont été victimes à un moment donné d'une discrimination, d'une agression. Donc ça peut aller de la simple moquerie à des choses un petit peu plus violentes. Donc oui, ça existe encore. Les choses évoluent positivement en matière d'inclusion. On est quand même aujourd'hui sur 6 personnes LGBT sur 10 en entreprise qui sont visibles. Donc c'est pas encore la totalité, mais on est quand même 10 points au-dessus d'il y a 3 ans. Et c'est 1 sur 2 auprès de sa hiérarchie. Donc c'est pareil, il y a encore du chemin à faire, mais on est quand même aussi presque 10 points au-dessus par rapport à il y a quelques années. Donc les choses avancent. On va dire que pour les lesbiennes, gays, bi, il y a vraiment plus vraiment de sujets où il y a encore besoin de pédagogie, d'explication pour que vraiment les choses se passent bien. C'est pour les personnes trans et pour les personnes non binaires, où là on intervient, on est souvent sollicité sur ces questions là souvent par méconnaissance en fait, donc des fois il peut y avoir des maladresses de certaines personnes, de mégenrage, pas forcément voulu, mais du coup notre travail c'est d'essayer de faire en sorte que justement ces maladresses n'existent pas et que tout le monde puisse être entier dans son milieu professionnel.
Concrètement, c'est quoi ? C'est un salarié qui change de genre, par exemple, et il faut expliquer communiquer, faire passer ça un petit peu auprès du
entourage. Alors ça peut être un salarié en situation de transition. Alors après, la visibilité, c'est un choix de la personne. Donc déjà, il faut vraiment écouter le salarié. Qu'est-ce que le salarié a envie, qu'est-ce que le salarié a besoin pour se sentir bien dans son milieu professionnel. Et pour les personnes en situation de transition, on va dire automatiquement, ça va se voir. Et voilà, un collaborateur masculin qui veut tendre vers le genre féminin, évidemment, ça va se voir. Donc c'est vrai que c'est bien d'aller vers le collaborateur, savoir qu'est-ce que le collaborateur a besoin, qu'est-ce qui est important pour lui, quelle est la temporalité aussi, parce qu'une transition, ça prend du temps. Une transition, c'est quelque chose de singulier. Voilà, il n'y a pas de processus complètement établi. Donc voilà, l'objectif, c'est d'être vraiment dans l'écoute du salarié, qu'est-ce qui est important pour lui, pour qu'il se sente bien dans l'entreprise. Donc ça peut être vraiment des petits détails, hein, mais c'est lui permettre d'utiliser les sanitaires dans le genre sur lequel il se destine. Ça peut être de modifier l'adresse mail, les signatures, voilà, toutes ces petites choses qui sont à la portée de l'entreprise. Tout ce qui est possible de faire, essayez de le faire, voilà, le plus rapidement possible. Utiliser le prénom que la personne souhaite, utiliser les bons pronoms que la personne souhaite, ça, c'est très important. Et bien sûr, éviter l'outil, en fait, hein, c'est-à-dire de donner des infos que la personne ne souhaite pas donner. Si la personne ne souhaite pas évoquer sa situation de transition, peut-être au départ, voilà, ça n'a pas à être évoqué. Si la personne ne souhaite pas dire qu'elle est LGBT, ça n'a pas à être évoqué. Ça appartient vraiment à la personne de donner ces infos-là à ses collègues.
Globalement, on peut dire qu'une transition expliquée, ça passe mieux qu'une... à partir du moment où il y a une explication de texte, entre guillemets.
Tout à fait, mais comme n'importe quel sujet en entreprise, hein, dès qu'il y a un changement dans une société, il faut que ce changement soit accompagné, soit expliqué avec le plus de pédagogie possible pour, on va dire, diminuer les freins, diminuer les a priori et que tout se passe bien dans ce changement. En général, sur les situations de transition, quand il y a un accompagnement de qualité par les ressources humaines, par la partie diversité et inclusion, par exemple, si les entreprises ont ça, il n'y a pas de difficulté particulière.
Quels sont les nouveaux outils aujourd'hui dont vous disposez pour justement accompagner ces transitions?
Alors, les outils, ça peut être des sensibilisations qu'on peut proposer aux entreprises. Alors, ça peut être des sensibilisations donc sur un temps plus ou moins long. Ça peut être en présentiel, ça peut être à distance. Si c'est plus facile, on peut intervenir lors d'afterwork, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Si les sociétés ont besoin d'une formation peut-être plus longue, plus importante, là, dans ces cas-là, on va faire appel à des professionnels pour pouvoir délivrer un message si vraiment ils sont sur quelque chose qui peut durer une demi-journée ou une journée entière. Sinon, si c'est des simples, des sensibilisations. Des sensibilisations qui peuvent durer 1 à 2 heures, les bénévoles de l'autre cercle sont suffisamment formés pour pouvoir délivrer ces sensibilisations-là.
Pour contacter l'autre cercle, c'est très simple, rendez-vous sur autrecercle.org. En bref, le foot, la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pas su se défaire du promu Auxerrois. La GIA n'a profité pour décrocher le nul de partout. En top 14, le Loup a concédé sa première défaite à domicile depuis un an. Les Lyonnais se sont inclinés face à Bayonne à Gerland, 38 à 49. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.